première table ronde.
On continue notre colloque éthique sur la formation, la révolution nécessaire de l'enseignement, de la pédagogie de l'enseignement. Première table ronde, on va se poser la question, comment améliorer l'enseignement avec nos invités. Bienvenue à Patrick Roux. Bonjour Patrick.
Bonjour.
Vous êtes président de la Fédération Nationale de l'Enseignement Privé.
Tout à fait.
FNEP. La FNEP, comment on dit ?
FNEP.
FNEP, très bien. À vos côtés, Lynn Visseveil. Bonjour Lynn.
Bonjour.
Vous êtes présidente de France chez Globe Educate et avec vous, on va parler bilinguisme.
Bilingue. Exactement.
J'allais le dire en anglais, mais voilà, justement, on va essayer de parler bien français dans cette émission, puis on laissera, vous nous direz comment vos élèves parlent parfaitement anglais. Maxime Ayache, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président fondateur de Domia Group, alors ça vous dit peut-être pas grand-chose, par contre si je vous dis Acadomia, alors là ça commence à parler un petit peu, combien d'élèves sont passés par les bancs d'Acadomia ?
Beaucoup.
Beaucoup.
Beaucoup, on les chiffre en millions depuis 30 ans. Et chaque année, cette année, ce sont près de 200 000 élèves que nous accompagnons dans la réussite de leur scolarité.
Bon, très bien. Et on a besoin de vos lumières, notamment, on le disait à l'instant avec Sophie de Menton dans l'introduction, à l'heure du choix crucial, puisque c'est plus le bac aujourd'hui, c'est ce fameux Parcoursup qui angoisse beaucoup de parents. Voilà, les parents d'élèves de terminale me comprendront. Enfin, on accueille Stéphane Vincent qui est à distance. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Président fondateur de Super Futur. Et avec vous, on va voir justement comment on fait pour réussir sa scolarité. Est-ce qu'il y a des aides ? Est-ce qu'on est suffisamment orienté ? Ou est-ce qu'on peut améliorer tout ça ? On va voir ça dans un instant. On démarre avec vous, Patrick, si vous le voulez bien. Donc, je rappelle que vous êtes président de la Fédération Nationale de l'Enseignement Privé. Avec une question sur justement ce secteur privé. Sophie de Menton, à l'instant, nous disait... c'est vrai qu'il y a peut-être que, allez, 40 ans, une quarantaine d'années, c'est vrai que c'était souvent les élèves qu'on ne pouvait pas mettre, qui ne pouvaient pas suivre le cursus, qui étaient envoyés dans le privé. Et aujourd'hui, on a l'impression que c'est l'inverse, c'est le privé qui a pris le pas et que ce sont finalement, sauf quelques établissements d'excellence dans le public, finalement, eux qui tiennent la dragée haute.
C'est variable selon les niveaux d'enseignement, entre l'enseignement primaire, l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur. Ce sont trois choix différents. Dans l'enseignement primaire, les parents s'inquiètent que les bases élémentaires, comme l'école, de la lecture, de l'écriture et de la compréhension du calcul, ne soient pas données dans une école publique qui est parfois défaillante. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Oui. La majorité des écoles publiques savent faire leur travail, mais il y a quand même quelques écoles qui sont pas très bien tenues, va-t-on dire. Ça, c'est un choix qui est fait par nécessité. Dans l'enseignement secondaire, c'est plutôt des élèves différents. Les élèves ne sont pas tous les mêmes. Ils ne mûrissent pas. C'est un peu comme les fruits ou les fleurs. Toutes les fleurs n'éclosent pas dans le parterre le même jour à la même heure. Et les enfants, leur maturité aussi est variable. Ce sont des phénomènes biologiques qui se produisent, notamment entre les garçons et les filles. Ce n'est pas la même évolution. Et donc, il y a des moments de leur vie où ils ne sont pas adaptés au programme qui est un programme unique, homogène, uniforme, un peu autoritaire. Qui est imposé à tous les enfants, et ils n'ont pas fatalement tous la capacité à suivre. Certains sont en avance, d'autres sont en retard. Et ces enfants différents peuvent trouver leur place dans l'enseignement privé qui adapte sa pédagogie avec des effectifs plus réduits, et puis avec des organisations pédagogiques aussi. On peut faire les cours le matin, du sport l'après-midi, des études dirigées le soir, ce que l'enseignement public ne fait que rarement.
Ouais, et puis dans le supérieur, qui est fait pour traiter la masse finalement, puisqu'on a des cohortes.
C'est comme tous les enfants étaient. On parlait tout à l'heure d'uniforme à l'école, mais ça c'est un uniforme pédagogique. C'est-à-dire tout le monde suit le même jour à la même heure, si j'ose dire, le même programme, et tous les enfants ne sont pas faits pour ça. Dans l'enseignement secondaire, c'est particulièrement marqué.
Oui. On fait le distinguo, si vous voulez bien, juste pour nos auditeurs comprennent bien, entre le public, le privé sous contrat et les établissements 100% privés.
Ce sont trois secteurs différents. Le public, on le connaît tous, c'est l'éducation nationale, c'est le secteur fonctionnarisé. Le privé sous contrat, c'est sous contrat d'association avec l'État. Donc la Les enseignants ne sont pas tout à fait des fonctionnaires, ce sont des agents de l'État, petite coquetterie, puisqu'on n'a pas voulu les appeler fonctionnaires, car ils n'ont pas fatalement tous passé le même concours, mais les personnels sont gérés malgré tout par le recteur, donc les établissements gardent leur caractère propre et peuvent rajouter un supplément d'enseignement, oui, hein, dans leur cursus. Et puis le privé que l'on appelle hors contrat, puisqu'il n'a pas souscrit de contrat avec l'État, ce qui est devenu une appellation un peu saute aujourd'hui en 2024, puisque la majorité de la profession est dans l'enseignement supérieur. Or, dans l'enseignement supérieur, il n'y a pas de contrat. Donc, s'appeler par rapport en référence à quelque chose, à un dispositif qui nous est fermé, c'était devenu un peu baroque. Donc, maintenant, on l'appelle enseignement privé indépendant.
Très bien.
Et indépendant financièrement et pédagogiquement. On s'organise comme on le souhaite, bien sûr, dans le cadre des respects de la, notamment dans le secondaire et le primaire, le socle commun de connaissances que tous les enfants doivent savoir, mais on y arrive par les voies et les moyens que l'on choisit, et notamment en essayant de s'adapter à la situation exacte de l'enfant qui est une personne à part entière.
Oui, avant de continuer le tour de table, juste question, qu'est-ce qui motive les parents à mettre justement leurs enfants dans ces établissements 100% privés ?
Bien, d'une part, pour le primaire, la crainte que l'on rate les savoirs majeurs. Les pédopsychiatres nous disent que 80% des connexions neuronales se font entre 3 et 7 ans ou 8 ans, je crois. Il y a des débats sur les âges. Et que si on est raté, enfin, si on rate l'éducation de base, ce sera très difficile de récupérer ce handicap par la suite. Donc pour le secondaire, c'est des enfants qui sont pas au rythme, comme je disais tout à l'heure, hein, de la marche uniforme de l'éducation nationale qui ne marche que d'un seul pas. Et pour le supérieur, c'est essentiellement la professionnalisation, puisque les enfants qui sortent du secondaire et qui rentrent dans l'enseignement supérieur, aujourd'hui, on est à 27%, je crois, d'étudiants dans l'enseignement supérieur privé, indépendant. Ça fait beaucoup. C'était 5% il y a une vingtaine d'années. Alors, il ne faut pas avoir peur, hein, on ne va pas remplacer l'éducation nationale, hein, mais on ne va pas remplacer les universités, qui se rassurent. D'autant que nos universités sont en général de très bonne qualité. La recherche française est l'une des meilleures du monde. Il ne faut pas avoir honte de l'université. Mais tout le monde n'est pas fait pour aller à l'université. Est-ce qu'on a besoin, sur 700 000 enfants, d'avoir 700 000 docteurs ? Je ne pense pas que ce soit évident.
On en manque, mais ça serait compliqué, effectivement, d'avoir une seule filière. Alors justement, on va continuer dans un instant à évoquer ces sujets. On va parler, avec vous, Lynn Vissovel, du bilinguisme. C'est vrai qu'il y a, alors c'est pas si un fantasme ou une réalité, mais souvent on dit, les Français sont nuls en langue, notamment en anglais, même si on a le sentiment qu'il y a quelques progrès, notamment avec les plateformes qui maintenant permettent de regarder des programmes dans plusieurs langues. Qu'en est-il exactement ? Vous êtes président de France de Globe Educate, et justement c'est votre mission de travailler dès les tout petits, hein, c'est ça ? Vous dites qu'il y a des facilités, une plasticité cérébrale pour apprendre des langues, surtout dès le plus jeune âge.
Exactement. Donc nos écoles sont des écoles primaires et secondaires. Donc dès l'âge de 3 ans, les enfants apprennent l'anglais. Et le modèle finalement qu'on préconise, c'est un modèle où on enseigne le curriculum français. 50% en langue française avec un professeur natif français, et 50% en langue anglaise avec un professeur natif d'un pays anglo-saxon. Mmh. Et le fait pour un enfant, tous les jours, un jour d'apprendre les langues, un jour d'apprendre les mathématiques en français, le lendemain les mathématiques en anglais.
Voilà, c'est pas un professeur d'anglais, hein, c'est-à-dire on va faire toutes les matières dans les deux langues.
Exactement, avec un professeur natif à chaque fois. Le fait de faire ça, effectivement, on utilise la plasticité cérébrale dont a parlé le président Roux, et si vous commencez à 3 ans, à 18 ans, vous aurez, selon l'assessment de Cambridge, un niveau C2, c'est-à-dire le deuxième meilleur niveau d'anglais. Et surtout, vous parlerez absolument sans accent, parce que si vous avez la chance d'avoir appris une langue avant l'âge de 12 ans avec un professeur natif, vous n'aurez aucun accent, même si vous n'avez jamais vécu à l'étranger.
Ouais, alors ça c'est formidable, c'est vrai que si on regarde le cursus traditionnel, on va dire, on a quand même beaucoup d'heures. En tout cas, les élèves passent beaucoup d'heures en cours, mais c'est vrai qu'il en ressort pas grand-chose, c'est-à-dire si on les jette dans le premier stage ou les 3 jours ou le week-end à Londres, ils seront bien en peine de demander même leur chemin.
Oui, parce qu'en fait, c'est la répétition de la langue qui fait que vous l'apprenez. Et quand vous avez la chance d'être la moitié du temps en anglais et la moitié du temps en français, vous êtes exposé énormément au langage. Vous avez l'opportunité de pratiquer le langage. Moi, je dis toujours attention, on dit pratiquer, on dit parler une langue.
Oui.
Parler, c'est pas comprendre, c'est être capable de prendre la parole, de discourir, d'avoir une conversation. Et la plupart du temps, les gens vous disent qu'ils parlent anglais, puis quand vous embrayez en anglais, ils sont pas capables.
Enfin, ils peuvent comprendre à peu près ce que vous dites, mais c'est
voilà.
On est bien
mais
en train de vous
il répondre. La parle pas. Donc le fait d'être exposé aux deux langues en permanence, mais c'est ça qui fait que vous l'apprenez très rapidement.
Oui, d'autant que c'est important pour la suite, notamment le monde professionnel où là, on vous demande pratiquement anglais pratiquement obligatoire.
Exactement. Enfin, je crois qu'on a tous compris que l'économie était mondiale. L'anglais, c'est le passeport pour le monde. C'est la langue parlée dans tous les pays du monde qui vous permet d'interagir partout dans le monde. Et une étude d'Adecco a montré récemment que 64% des offres d'emploi requièrent une connaissance de l'anglais. Or, en France aujourd'hui, 25% seulement des Français déclarent connaître l'anglais. Donc on voit bien finalement l'écart qu'il y a entre la demande du marché du travail et celle que les Français peuvent offrir aujourd'hui. Or, ouais. C'est vraiment notre devoir d'éducateur de préparer la nouvelle génération, j'ai envie de dire même pas au monde de demain, au monde actuel.
Au monde actuel, oui, on se souvient des trois petites lettres, lui écrit parler en général, anglais, et puis bon, finalement, là aussi, quand on fait des tests, ça devient un petit peu plus compliqué. On vous retrouve dans un instant, Lynn, on va parler, on va découvrir, redécouvrir Acadomia avec vous, Maxime Ayache. C'est vrai qu'on a, l'impression, en tout cas, vous avez je ne sais pas si trouver un créneau, mais en tout cas, il y avait ce besoin d'accompagner les élèves hors du parcours scolaire. Je me souviens, je vous ai cité une publicité il y a quelques années pour Acadomia qui prétendait que vous faisiez monter le niveau, ou du moins la moyenne, d'environ 3,5 points.
Alors, c'est exact. Créneau, oui, c'est quand on parle en économie, lorsqu'on parle d'éducation et lorsqu'on s'intéresse aux enfants, ce qu'on veut, c'est les aider et les accompagner et les aider à réussir. Donc c'est le point. Après, lorsqu'on fait du soutien scolaire et l'accompagnement scolaire, on fait un travail finalement qui est très simple. On doit apporter une meilleure compréhension à l'élève en s'appuyant sur les enseignements qu'il a dans son établissement, qu'il soit public ou privé. Donc l'aider à mieux comprendre, parfois l'aider à mieux s'organiser, et puis on n'oublie pas qu'on a effectivement parfois, le plus souvent d'ailleurs, des jeunes qui sont autour de l'adolescence. Donc l'adolescence, il y a beaucoup de sollicitations, on doit apprendre ses cours, on doit s'intéresser à l'école, on doit réussir, mais on doit être également dans sa vie d'adolescent. Et donc il y a souvent un manque de confiance, souvent une perte de confiance. Et nous, notre travail consiste à faire en sorte d'aider l'élève à mieux comprendre, d'aider l'élève à mieux s'organiser, c'est ce qu'on appelle la méthode, et puis surtout à se sentir bien dans sa peau. Et lorsqu'on fait tout ça, eh bien en réalité, les résultats sont extrêmement probants. La méthode est simple, encore faut-il la mettre en œuvre, mais les résultats sont très probants. Et effectivement, on arrive de manière, c'est pas qu'on prétend, c'est qu'on mesure. On mesure de manière rigoureuse chaque année, et les progressions de nos élèves sont de l'ordre de 4 points. Alors, pour un élève qui est moyen, c'est la moyenne, donc un élève qui a 8, l'amener de 8 à 12, c'est relativement simple. De 10 à 14, c'est pas beaucoup plus compliqué. Effectivement, de 18 à 22, c'est un peu plus difficile, en revanche.
Ouais. Mais c'est peut-être pas la priorité de gens qui viennent vous voir, d'ailleurs.
Les priorités, enfin, chacun a son objectif, chacun a son agenda, chacun a sa propre ambition, et c'est ça qui est intéressant. Vous avez des élèves qui ont des vraies difficultés qu'il convient d'aider, vous avez des élèves qui sont moyens, qui veulent passer dans une meilleure classe, et puis vous avez des élèves qui sont de très bons élèves, qui veulent devenir vraiment meilleurs. Ce qui est important, c'est qu'il faut imaginer chacun, qu'est-ce que je fais d'avoir 4 points de plus? Ok, au-delà du fait de recevoir mon bulletin scolaire avec 4 points. Qu'est-ce que ça m'ouvre comme horizon? Vous parliez précédemment avec la présidente Sophie de Menton. Parcoursup, oui, qu'est-ce que je fais avec 4 points de plus? 4 points de plus, ça me permet de faire la scolarité que j'ai envie de faire. Ça me permet d'accéder au métier qui me fait rêver. Ça m'ouvre des champs de possibles, je n'ai pas forcément une vraie idée de ce qu'il convient de faire. C'est là que ça change. C'est pas 4 points pour 4 points, c'est 4 points pour l'ensemble des possibles qui s'ouvrent devant moi.
Alors il se trouve, je raconte ma vie, qu'il y a une agence Acadomia très très près de chez moi, dans le 13e arrondissement, et c'est vrai qu'il y a des affiches qui sont des espèces de motos comme ça, j'en cite quelques-uns. Leur donner confiance en eux, ça fait partie de nos devoirs. Ou encore, le plus doué de la classe sera-t-il l'adulte le plus heureux? Vous avez 2 heures. Et c'est intéressant parce que, une dernière, tiens, quand on est jeune, le futur c'est beaucoup trop loin. Ça dit bien que c'est aussi une histoire de confiance. Ça veut dire, en creux, Maxime Ayache, est-ce que l'école ne les oriente pas assez, ne les forme pas assez, ne se penche pas finalement sur vraiment ce qu'ils désirent, ce qu'ils souhaitent être, ce qu'ils souhaitent devenir, ces élèves?
Ok. Moi, je suis parent. Ce qui m'intéresse, si vous voulez, c'est pas le sens de la nation en tant que parent. Ce qui m'intéresse, si vous voulez, c'est le bien-être de mon enfant, que mon enfant se sente bien dans sa peau, que mon enfant réussisse à l'école. Réussir, c'est d'abord qu'il soit heureux, qu'il ait les bonnes notes et qu'il puisse atteindre ce qu'il veut faire. Voilà, ça, c'est mon objectif en tant que parent. Après, le sens de l'éducation, c'est un autre sujet, ça s'appelle de la politique. Donc moi, mon travail, et notre travail à Academia, c'est de faire que chaque enfant soit unique, que chaque enfant puisse avoir un travail véritablement individualisé. Ça, c'est notre mission, et c'est la raison pour laquelle nous avons autant de personnes, de familles, d'élèves qui viennent nous voir. Après, oui, on traite l'éducation, on veut essayer de la traiter de manière légère. C'est un sujet sérieux, on veut la traiter de manière légère, avec des codes, avec des mots qui sont ceux des jeunes d'aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle nos communications sont toujours sympathiques, sont toujours accessibles, sont toujours tournées vers les enfants. L'éducation, ça doit être un plaisir. Et c'est ce qu'on essaye de transmettre. Et c'est la raison pour laquelle je pense que nous réussissons.
Oui. L'éducation est un plaisir. Bon, je ne sais pas si tous les collégiens ou lycéens de France sont d'accord avec vous pour
quand
ils se lèvent le matin.
Alors, en tout cas, chez nous, oui.
Ah bah oui, après, pourquoi pas. Alors, on va continuer, on va terminer le tour de table, si vous le voulez bien, avec Stéphane Vincent, président fondateur de Super Futur. Alors là aussi, un Super Futur. Qu'est-ce que c'est que ça, Stéphane? Est-ce que vous pouvez nous expliquer?
Bah déjà, je pense que c'est ce dont tout le monde rêve. La priorité, c'est que le futur soit éventuellement super. Et puis, nous, notre métier, c'est l'accompagnement à l'orientation. Et cet accompagnement, il est à partir de la quatrième jusqu'au post-bac. Et avec un principe qui est simple, c'est révéler les points forts de chaque jeune pour qu'il puisse trouver un avenir dans lequel il va s'épanouir, parce que ça va durer quand même un peu plus de 40 ans, l'histoire. Donc, l'accompagnement se fait sur mesure et sans douleur.
Et 40 ans, vous êtes modeste, hein, c'est en train d'augmenter avec évidemment notre durée de vie. Là aussi, accès à l'information, on parlait justement, vous faites une comparaison entre les heures qu'on passe en cours et les heures à s'orienter, et là on voit que la balance est clairement déséquilibrée.
Oui, c'est-à-dire que c'est un principe assez simple, hein, quand on regarde le nombre d'heures d'enseignement, hein, que ce soit à partir de la 4e, de la 3e, mais même jusqu'en post-bac, on est sur de base de 450 heures par an minimum. Regardez le temps qui est octroyé uniquement à l'orientation individuelle pour chaque jeune, et même collectif. C'est vraiment l'épaisseur du trait, c'est très anecdotique, et on ne s'intéresse pas en fait au mode de fonctionnement de chacun. Alors on comprend bien qu'aujourd'hui, une classe d'âge, c'est de 750 000 jeunes. Donc le programme, il est construit pour 750 000 jeunes, mais ils ne sont pas tous les mêmes. Je crois que c'est ce qu'évoquait tout à l'heure Monsieur Roux, Monsieur Ayache et puis bien évidemment Sophie de Menton. Donc on se retrouve en fait avec un fonctionnement qui est très bien en termes de traitement de masse, mais sur lequel on ne prend pas le soin d'individualiser. Et comme j'aime à le dire souvent, vous avez plusieurs enfants chez vous, c'est très rapidement comme en boîte de nuit, deux salles, deux ambiances. Hein. Donc il faut vraiment trouver la bonne solution pour que chacun puisse s'épanouir et surtout devenir un adulte heureux dans ce qu'il fait.
Oui, l'enjeu, vous dites, c'est de se connaître, en fait. Comment on fait, tiens, quelles sont les méthodes là, que vous utilisez, parce que c'est pas évident. Enfin, un jeune, 14, 15, 16 ans, même jusqu'au bac, là, on est au moment des choix, par exemple, des vœux pour Parcoursup, on sait toujours pas, et en plus, c'est un petit peu anxiogène ou même angoissant pour certains, parce qu'ils se disent, mais je suis obligé de choisir maintenant et je pourrais plus revenir en arrière. Alors, quelles sont les méthodes que vous utilisez, vous, pour révéler tout ça?
Je vais revenir quand même. Le mode de fonctionnement éducatif a évolué depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, on a quand même beaucoup de passerelles. Donc, quand on choisit, c'est pour une partie de sa vie. On a vraiment les possibilités de progresser tout au long de la vie et de se former tout au long de la vie. Sauf sur certaines formations qui sont quand même très typées et très sur lesquelles on ne peut pas revenir. En revanche, comment procède-t-on? Nous, la première chose, c'est qu'on aide avec des questionnaires à ce que chaque jeune puisse révéler ses points forts. Ensuite, on l'aide à regarder des métiers qui lui conviennent et qui l'intéressent. Et la troisième chose, c'est qu'on va lui donner la possibilité d'aller effectuer des stages, en général entre 5 et 15 jours, pour pouvoir aller expérimenter un métier et finalement faire un choix.
D'accord.
Dans les jeunes qu'on accompagne, il y en a 80% qui ont des bonnes notes partout. Souvent, ils ont d'ailleurs une intuition. J'aimerais bien faire ceci. Mais en fait, il n'y a pas du tout de logique de choix. Et donc le principal de l'orientation, c'est surtout de se donner la possibilité d'avoir le choix. Donc quand on sait exactement ce qu'on veut faire, regardons peut-être d'autres métiers sur lesquels on pourrait être bon pour pouvoir justement enclencher un processus de choix et faire le bon choix.
Tiens, justement, à propos de choix, vous dites non choix ou plutôt un choix parfois contraint. par beaucoup d'éléments. Il y a plusieurs choses qui nous poussent. Par exemple, ce qu'on aimerait faire, ou peut-être un certain statut qu'on aimerait avoir, plutôt que, par exemple, les métiers manuels versus intellectuels. La pression familiale aussi qui peut jouer. Il y a d'autres éléments.
Oui, il y a bien de beaucoup d'éléments. Vous citez la pression familiale. La pression familiale, elle est faite aussi, enfin, elle est due parce que les parents eux-mêmes ont la pression. C'est-à-dire que vous avez des parents qui sont parfois dans des dîners en train d'essayer d'expliquer que leur enfant va telle formation, alors qu'en fait le sujet c'est est-ce que mon enfant va être heureux, est-ce qu'il va avoir la possibilité de vivre correctement de son travail. Donc ça c'est des points qui sont importants. La deuxième chose c'est que les jeunes sont quand même limités souvent par ce qu'ils connaissent. Si vous regardez aujourd'hui le nombre de métiers proposés par les grilles ROM, on est à 700-800 métiers. Si aujourd'hui vous avez un jeune qui est capable d'en connaître une trentaine, c'est déjà un grand maximum. Donc l'idée c'est effectivement de lui donner la possibilité d'aller ouvrir le champ des possibles et justement, une fois qu'il se connaît mieux, d'aller explorer des métiers, notamment tous les métiers qu'il ne connaît pas.
Alors justement, Lynn Vissoveille, vous voulez réagir? Je vois hocher la tête justement au fait qu'effectivement, je crois qu'il y a 23 000 formations maintenant dans Parcoursup. C'est compliqué, on a cette idée des grands métiers, médecin, avocat, peut-être journaliste, pourquoi pas. Mais après, c'est un peu compliqué d'aller explorer, on ne sait pas du tout à quoi ça correspond.
Alors, je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit Stéphane Vincent sur l'importance de l'orientation. Et c'est très bien que Superfuture existe. D'ailleurs, dans nos écoles, nous avons des conseillers d'orientation dès la seconde qui connaissent les enfants, qui suivent les enfants et qui essayent de faire émerger une sorte de vocation chez les enfants. C'est important, effectivement, et je pense que le travail que fait Superfuture est totalement complémentaire de ce que l'on fait, parce que c'est vrai qu'on a tendance à répliquer des schémas familiaux. Et surtout, il faut se le dire, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, par exemple, on sait que 40% des jobs dans 10 ans n'existe pas aujourd'hui. Donc on n'est pas du tout armé en tant que parents pour finalement aider l'orientation de nos enfants dans des métiers qu'on ne connaît même pas. D'ailleurs, si on parle à nos parents, à nous qui sommes autour de la table de l'intelligence artificielle, on est complètement perdus, c'est pas notre génération. Donc il faut aussi pouvoir aider les enfants à s'orienter dans des métiers qui n'existent pas. Je voudrais dire aussi une autre chose importante par rapport au bilinguisme, on en parlait tout à l'heure. L'intérêt du bilinguisme aussi, c'est de pouvoir ouvrir le champ des possibles. Oui. Dans nos écoles, 50% de nos lycéens vont faire leurs études à l'étranger après avoir été diplômés du baccalauréat. Parce qu'il y a aussi plein de cursus exceptionnels à l'étranger que tout le monde n'est pas forcément fait. Les meilleurs élèves ne sont pas forcément faits pour faire une préparation ingénieur ou école de commerce et qu'il y a des cursus qui existent à l'étranger. Donc, l'importance de l'ouverture aussi au monde. Il y a des universités extrêmement prestigieuses en France, mais il y en a aussi, bien évidemment, dans les pays anglo-saxons, par exemple, aussi en Hollande. C'est important. Et évidemment, je suis sûre que, au-delà de Parcoursup, envisager ce qui se peut se faire à l'international est aussi important pour la génération de Français qui, demain, devra rayonner dans le monde, occuper des emplois aussi dans des sociétés partout dans le monde.
Oui. Maximilien, vous voulez réagir aussi à cette dimension justement d'essayer de se projeter? Non, vous avez réagi, j'ai entendu une idée. Au fait qu'on ne connaît pas évidemment l'avenir et on ne sait pas les métiers. On ne pouvait pas se douter, peut-être vous, Internet n'existait pas beaucoup, on ne pouvait pas se dire, on va développer comme ça une super
plus les ordinateurs il y a 30 ans, qu'Internet il y a 20 ans, qu'aujourd'hui l'IA il y a encore 2 ans, qu'on ne connaissait pas, et on se dit, zut, tout ça c'est des révolutions qui sont majeures. L'IA... On en aparté rapidement. Soit c'est un outil qui est fantastique pour rendre nos enfants tellement plus intelligents, tellement plus compétents et final tellement meilleurs. Mais le risque, c'est qu'ils deviennent tellement plus bêtes. Et donc notre rôle à nous, c'est de faire en sorte qu'ils deviennent vraiment meilleurs. Mmh. Bah, c'est un enjeu. Et puis c'est un enjeu évidemment comment apprendre. Donc on voit bien qu'il y a des révolutions et ça nous ouvre tout ça ensuite sur des métiers qu'on connaît pas et pour lesquels il faut se positionner. Des métiers, des savoirs aussi. Mais c'est ça qui est passionnant.
Ouais, sur l'intelligence artificielle, c'est puisqu'on est dans le monde de l'enseignement et bien sûr des devoirs. Les enfants ou les élèves s'en sont emparés, évidemment, pour faire leurs devoirs, puisque ce soit maths, physique, chimie, etc. L'intelligence artificielle, non seulement vous donne le résultat, mais l'ensemble du raisonnement, encore faut-il le comprendre.
C'est ça qui est intéressant. Ça ne change pas les fondamentaux de travail. Si je fais un devoir... Déjà, je peux prendre sur Internet, je prends sur Internet, je vais sur Google, avec l'IA c'est encore plus simple, mais si j'ai pas sourcé, si j'ai pas vérifié mes sources, si je ne m'assure pas que tout ça c'est bien, ça me pose un petit problème. Donc le rôle aujourd'hui, ce sera peut-être un petit peu différent, ce ne sera peut-être plus de rédiger ou de s'assurer de la bonne rédaction, mais de la rigueur du raisonnement et de la rigueur des sources. Et c'est ça qui est important. Je fais un devoir sur l'IA. C'est très simple, je pose ma question et ChatGPT, il va le faire vraiment pas mal. En revanche, j'ai pas toujours les sources. En revanche, j'ai pas toujours les références. Et là, ça me pose un petit problème, parce que je ne sais pas si c'est vrai. Je ne sais pas si je suis dans la désinformation. Et donc, mon rôle aujourd'hui va consister, à mon époque, on apprenait à rédiger, on apprenait à faire un plan. Ça, c'est acquis. C'est acquis. Maintenant, je dois m'assurer que mes sources sont bonnes et pertinentes. Par exemple, c'est une simple illustration.
Exactement. Petite anecdote sur l'IA. Et pour illustrer, effectivement, si vous demandez à ChatGPT, ça a été un petit peu corrigé, mais si vous demandez la différence principale entre un œuf de poule et un œuf de vache, vous avez tout un raisonnement, vous savez, avec le prompt qui vous donne des arguments extrêmement forts, sauf que l'œuf de vache, évidemment, n'existe pas. Alors, ils ont un peu rectifié maintenant.
Ça signifie simplement, c'est une traduction que l'intelligence artificielle est bien nommée, c'est une intelligence artificielle. Et on peut être des consommateurs d'intelligence artificielle ou des producteurs, mais si on est producteur d'un travail, c'est un travail personnel. Ça ne peut pas être l'intelligence artificielle qui le fabrique. Mmh. Alors bien sûr, on peut s'aider, mais ça a toujours existé. Quand j'étais élève, il y a très longtemps, il y avait profil d'une œuvre et on pouvait ainsi avoir un résumé parfait d'un bouquin qu'on n'avait pas lu et on faisait un commentaire au prof et on avait une très bonne note.
Qui était souvent meilleur, oui. Mais ceux, les profs qui avaient travaillé et lu tout le bouquin.
Mais ça supposait quand même qu'on ait compris ce qui était dit dans le petit résumé. Le Reader's Digest, ça existe depuis des dizaines d'années. Donc c'est pas des choses qui sont entièrement nouvelles. C'est mécanisé, c'est plus rapide, c'est plus complet. Il y a de tout. Effectivement, des œufs de vache, c'est merveilleux. Mais le jour de l'examen pour ce qui est d'un étudiant ou d'un lycéen, le jour de l'examen, il n'aura pas accès à l'intelligence artificielle. Le jour de son premier travail dans une entreprise, il n'aura pas fatalement accès à l'intelligence artificielle. Dans son entretien d'embauche, il sera tout seul. Donc si on n'apprend pas aux gamins à réfléchir par eux-mêmes et aller, comme vous le dites, à trouver, à sourcer, à vérifier, bon, ce seront des parfaits crétins. Mais ils seront... Donc c'est vraiment l'intelligence artificielle, c'est un outil comme d'autres, mais c'est pas ça qui va remplacer les enseignants, c'est pas ça qui va remplacer... Enfin, il faudrait pas s'orienter vers cette voie qui serait une fabrique comme le livre La Fabrique à Crétin, là, ce serait un peu ça. Ouais. Ça y contribuerait fortement.
Réaction aussi de Stéphane Vincent. Voilà, quand on s'appelle Super Futur, on réfléchit forcément à ces sujets, Stéphane.
Oui, et surtout un rôle majeur qui est celui des entreprises. Ça a été évoqué tout à l'heure, notamment par Sophie de Menton, mais je pense que ça reste essentiel aujourd'hui de connecter l'entreprise et sa réalité au monde de l'éducation. J'en veux pour preuve un principe qu'on rencontre aujourd'hui. Vous avez rencontré toujours des chefs d'entreprise ou des gens qui sont dans l'entreprise qui vous disent « je n'arrive pas à recruter ». En ce moment, tout le monde vous dit « je n'arrive pas à recruter ». Oui. Et paradoxalement, les mêmes personnes vous disent « je ne prendrai personne en stage de 3e ou stage de 2e parce que je n'ai pas le temps ». Mais j'allais dire, quand vous voulez du vin, à un moment, il faut aussi planter de la vigne. Et je pense qu'il est majeur aujourd'hui pour les entreprises de s'engager dans la proximité avec les jeunes. Déjà, pour revenir sur ce que moi j'appelle le SBAM, hein, sourire, bonjour, au revoir, merci, c'est-à-dire montrer que c'est une réalité de l'entreprise. Et puis derrière, surtout, donner les clés qui vont faire qu'on va avoir des professionnels connectés. La connexion, elle commence à se faire à partir, je vous dis, de la 4e, 3e, 2e, 1ère, pour avoir des gens qui vont être le plus connectés possible. Sinon, vous avez des gens qui passent finalement 20 ans à l'école, 43 ans en entreprise, mais le maillage entre les deux parties est finalement assez peu mis en place. Donc je pense que vraiment sur cette notion d'orientation, plus on aura des jeunes qui seront connectés à l'entreprise, plus on aura des jeunes qui finalement seront bons pour eux dans l'entreprise.
Ouais, justement, sur cette connexion à l'entreprise, vous avez, Maxime Ayache, vous le voyez déjà, puisque vous embauchez aussi des gens, évidemment, des professeurs, des formateurs. Est-ce qu'il y a, à votre avis, un hiatus, une déconnexion, justement, entre le monde de l'entreprise et les gens qu'on forme aujourd'hui ?
Alors, ce qu'il faut savoir, il ne faut pas se tromper sur les missions. Le rôle de l'école et de l'enseignement secondaire, c'est de former c'est quelque part d'apporter des savoirs essentiels et de former...
On est trop intello, disait tout à l'heure Sophie de Menton.
Pardon ?
On forme des intellos.
Je ne sais pas si on forme des intellos, mais en tous les cas, on doit former, tout au moins jusqu'au niveau du bac. Enfin, c'est une position personnelle. Mais des jeunes qui sont dans la nation, on doit connaître, on doit faire partie d'un ensemble, donc on doit partager, on doit en prendre les valeurs fondamentales de notre pays. Après, donc ça suppose l'histoire, ça suppose la biologie, ça suppose les maths, ça suppose la vie. Enfin, les savoirs essentiels.
Terminal, hein,
me semble-t-il. Oui, peut-être, mais ça me semble indispensable. Si on le voit bien aujourd'hui, on va enfoncer des évidences, on va parler d'évidences, mais enfin, si je connais pas mon histoire, je peux pas comprendre mon actualité. Enfin, et on le voit tous les jours dans l'actualité du moment. Donc, pour moi, c'est une évidence. Ensuite, naturellement, on vit dans un monde de compétition, on vit dans un monde qui est compliqué, on vit dans un monde qui est changeant. On peut pas te couper de l'entreprise. Moi, j'adore le principe des stages de troisième. J'adore quand je vois des jeunes qui viennent au siège ou qui viennent dans nos agences en stage de troisième. Ils sont tout jeunes, ils sont un peu perdus. Et puis, ils en sortent ici, ils en sortent le plus souvent contents avec le sourire. Donc, ça fait partie de la mission sociétale de nos entreprises en plus de tout ce que nous faisons. Après, l'enseignement supérieur, on n'est plus intellectuel. On doit avoir un rôle, trouver une formation, s'inscrire dans un ensemble beaucoup plus large et dans une vision très économique, quel que soit le métier d'ailleurs. Et donc, pour moi, je sépare le monde secondaire du monde de l'enseignement supérieur. Mais pour finir, me semble-t-il, dans le monde secondaire, et on parle effectivement de citoyens, on doit avoir des passerelles avec le monde économique, on doit avoir des passerelles avec le monde de l'entreprise. Il n'y a rien de pire que de stigmatiser ce monde et la vie dans lequel on est, le monde entrepreneurial.
Lynn Visovet, justement, le fait d'avoir ces deux langues, mais je dirais aussi c'est les deux cultures, parce qu'il y a la culture aussi qui vient par rapport à la langue, ça ouvre évidemment le champ des possibles, vous le disiez, mais aussi ça ouvre à une autre culture.
Ça ouvre à une autre culture et je pense que c'est de la meilleure arme pour développer la tolérance chez les jeunes et la paix. Parce que quand on a la chance de parler anglais et de pouvoir interagir avec des élèves qui veulent être d'autres nationalités que vous, eh ben vous apprenez à vivre ensemble. Et donc ça va au-delà de simplement avoir une capacité à travailler. Ça va aussi dans la capacité à accepter que l'autre a des différences, à se nourrir aussi des différences de l'autre. Donc ça apporte effectivement énormément.
Et la connexion, donc vous le disiez, études pour une grande partie, la moitié des élèves qui partent ensuite faire des cursus scolaires étrangers. Après, vous les suivez dans le temps, ils se casent entre guillemets facilement.
Ah ben évidemment. Enfin, quelqu'un qui a la chance de parler anglais a beaucoup une employabilité qui est bien supérieure à n'importe qui d'autre, et surtout la faculté à aller travailler dans le monde entier. C'est important aussi pour notre pays et pour que la France continue à avoir une place importante dans le monde, qu'il y ait des Français qui occupent des places importantes à travers le monde. Donc, apprendre l'anglais, on l'a tous vu, hein, on a eu des présidents de la République jusqu'à très récemment qui parlaient pas un mot d'anglais. C'était quand même un problème. La nouvelle génération, heureusement, parle l'anglais. Ben voilà, si on veut avoir des Français et que la France rayonne dans le monde, on doit avoir une génération d'élèves qui parlent parfaitement anglais, qui sera capable de travailler n'importe où et d'interagir avec n'importe où dans le monde.
Je rajouterais un point au-delà de là. Il y a la maîtrise de la langue, mais il y a également la maîtrise de la culture.
Exactement.
C'est-à-dire qu'un anglais, un espagnol, un indien, un chinois ne fonctionnent pas comme nous. C'est différent. Je porte pas de jugement, c'est mieux, c'est pas bien, c'est ou moins bien. C'est juste différent. Et si je ne comprends pas comment ils fonctionnent, si je n'ai pas appris dans l'idéal le plus jeune à côtoyer ces personnes, ces différences, eh bien je suis perdu plus tard ou je ne sais pas m'adapter. Et je pense qu'effectivement la langue, l'apprentissage de la langue va dans ce sens-là. Si je suis capable de parler avec des jeunes et des personnes du monde entier, franchement c'est un atout considérable et c'est fait partie de nos rôles, c'est ce que vous faites dans Globe Educate, c'est ce que je fais dans Academia, c'est ce qu'on fait par ailleurs, c'est décisif, c'est vraiment décisif.
Je voudrais vous donner un exemple concret de ce qu'on fait.
Oui.
Au mois de novembre, nous avons organisé pour le groupe les Academic Olympics à Paris. On a eu 200 élèves du monde entier qui sont venus pendant 5 jours, qui ont fait des Olympiades, qui ont visité Paris. Ils arrivaient le jour, les Portugais, les Espagnols, les Italiens, les Anglais. Ils étaient mélangés en équipes, évidemment pas des équipes par école, des équipes mixtes. Ils ont vécu pendant une semaine chez les parents de nos élèves. Donc, ils ont vécu dans des écoles, dans des familles françaises. À votre avis, quand vous avez passé 5 jours à baigner toute la journée avec des élèves du monde entier, est-ce que vous voyez la richesse pour un élève qui a passé 5 jours à Paris, a découvert la ville, a vécu dans une famille française et a interagi toute la journée avec des élèves étrangers? C'est une chance extraordinaire.
Bien sûr.
Alors, Patrick, vous... Oui, pour en revenir un peu au sujet de la table ronde, c'était comment améliorer l'enseignement. Bon, c'est un peu ça la question qui nous a été posée, donc on va essayer...
Et on attend vos réponses, Patrick.
D'y répondre, voilà. Et comment améliorer ? D'une part, vous disiez tout à l'heure qu'on savait à peu près que 40% des ou c'est vous que 40% des métiers de demain n'étaient pas encore connus. Hein, il faut se pencher sérieusement sur la formation tout au long de la vie. Et permettre des réorientations, des reconversions.
La formation continue.
Par l'éducation, par l'enseignement ou la formation. On appelle ça la formation tout au long de la vie. On avait un dispositif qui marchait bien. C'était les fonds GESIF. Et puis on s'est rendu compte qu'un dispositif qui marche bien, mais il est populaire. S'il est populaire, il y a beaucoup de monde qui rentre dedans. S'il y a beaucoup de monde qui rentre dedans, il coûte cher. Donc on l'a supprimé, on l'a remplacé par un truc beaucoup plus compliqué, qui marche beaucoup moins bien, mais qui coûte moins. Donc il faut accepter, c'est une anecdote que je cite, c'est une anecdote qui n'est pas anecdotique, hein. C'est que c'est un exemple plutôt. Et il faut accepter que l'enseignement, la formation, c'est pas une dépense, c'est un investissement sur l'avenir. Si on veut que sur les Français sachent travailler et se comporter en citoyen, eh bien, il faut investir pour les former comme tels. Et si on ne veut pas les former, il ne faut pas s'étonner qu'ensuite il y ait des débordements ou des difficultés sociales et sociétales. Pour l'enseignement, pour ce qui est de l'enseignement initial, hein, il faut que les écoles se rapprochent des entreprises et que les entreprises se rapprochent des écoles. C'est ce que l'on fait dans l'enseignement supérieur privé. La plupart, c'est un grand débat entre l'éducation nationale très académique hein, et le ministère du Travail qui est plutôt professionnalisant. Le développement de l'apprentissage depuis la loi du 5 septembre 2018, choisir son avenir, qui est une loi qui a, c'est l'une des rares réformes dans l'histoire de la République, pas uniquement de ce gouvernement, hein, l'une des rares réformes audacieuses qui a été réussie beaucoup mieux que ce qu'on le pensait, beaucoup mieux que les objectifs qui étaient fixés, puisqu'on a déjà atteint 1 million d'apprentis, alors que l'objectif d'un million d'apprentis, c'était à l'horizon fin du quinquennat, 2027. Ouais. Donc on a déjà franchi et personne n'est descendu dans la rue. C'est une réforme absolument merveilleuse. Tout le monde est content. Ça a donné l'opportunité à des jeunes, puisque, en fait, on a ouvert l'apprentissage à tout le secteur privé. Que ce soit du public, à tout le secteur. Que ce soit public, privé, sous contrat, associatif, commercial, toutes les écoles ou tous les instituts peuvent former maintenant à l'apprentissage, en respectant des règles, bien entendu, des labels, des qualités, etc. On ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment. Mais c'est une réforme qui a été très audacieuse et qui a très bien réussi. Mais on se rend compte qu'elle coûte beaucoup. C'est normal, si ça réussit, ça marche. Si ça marche, les gens qui viennent, il y a beaucoup de gens traités, donc ça coûte. Mais c'est un investissement. Et en ce moment, la réflexion des pouvoirs publics, c'est de dire comment on va faire pour que ça coûte moins. Mais c'est pas possible, puisque si ça marche bien, c'est un investissement à accorder.
Il faut
retirer dans les dépenses publiques, il faut voir ce qui est utile et ce qui n'est pas utile pour le futur, et peut-être faire des priorités. C'est ça le gouvernement, c'est de choisir des priorités.
Exactement. Réaction Maxime Ayache.
Oui, je suis nécessairement et forcément d'accord et je partage absolument la thématique de dire l'éducation c'est un investissement, c'est comme la santé c'est un investissement, on est forcément d'accord. Le problème des investissements c'est si on les mesure pas, ça marche pas. Parce que ça devient l'investissement et se transforme en centre de coût. Et je crois que le travail qu'on doit faire, et c'est probablement le rôle des fédérations professionnelles, c'est de dire, c'est un investissement, on mesure combien ça coûte. On sait combien ça coûte, on le mesure, mais surtout on mesure combien ça rapporte. De manière objective. Et une fois que je sais combien ça coûte, je sais combien ça rapporte, pour le coup ça devient véritablement un investissement quantifiable. Et là, brusquement, j'ai des arguments pour le...
Oui, mais ce travail a été fait. L'association WALT, qui est là pour assurer la promotion de l'enseignement, de l'apprentissage en France, a fait l'étude par un cabinet très bien outillé pour faire cette étude. 1 euro investi dans l'apprentissage rapporte 1,10 € à l'État. Mais pas immédiatement. Ce sont des allocations chômage en moins, c'est du RSA en moins, c'est de la délinquance en moins, c'est de la et c'est éviter des dépressions, des suicides, etc. Bon, donc ce n'est pas quantifiable, mais uniquement en termes financiers, TVA, ressources et dépenses publiques,
contribution directe.
C'est rentable.
C'est 1,10, donc ça rapporte 10%. C'est pas mal quand même comme rapport. Donc on devrait, mais ça suppose, comme le budget n'est pas extensible à l'infini, ça suppose de faire des choix et de renoncer à d'autres choix. Et on peut s'interroger comme le font certains hommes politiques à l'heure actuelle, en période préélectorale, c'est connu. Bon, il y a 1 500 ou 1 600 milliards de dépenses, dont 850 ou 900 milliards de dépenses sociales. Bon, ça interroge.
Bien sûr. Alors, en 2019, la France a consacré 160 milliards d'euros à son système éducatif, hein, au global, un peu plus de 6% du PIB. La dépense moyenne pour un élève ou un étudiant est de 8 500 euros.
Oui, c'est plutôt 9 000 maintenant.
Et aujourd'hui, 9 000 avec l'inflation.
Ça date de 2019, voilà. Etc. Donc, j'ai fait un petit calcul rapide d'ailleurs, avec 16 millions d'élèves multipliés par 9 000, on atteint à peu près 140 milliards.
On y est.
Et le budget est à 165, donc ça en coûte 25 de plus. Peut-être que là, il y a des milliards à récupérer. Parmi les statistiques qui nous sont fournies, elles ne sont pas tout à fait exactes.
Donc, Bruno Le Maire qui nous écoute va refaire ses calculs,
voilà,
à mon avis.
Mais il y a des dépenses de structure. C'est comme on l'a remarqué dans presque toutes les structures. Il y a 800 000 professeurs pour 1 300 000 agents. Dans les hôpitaux, il y a 40% de non-soignants. Bon, dans toutes les structures, dans toutes les structures
c'est
étatiques,
le poids de la superstructure,
il y a
en fait
énormément de postes qui ne sont pas à la production. Et ça, c'est assez caractéristique, parce que comme vous le disiez tout à fait précisément et avec pertinence, c'est un centre de coût, il faut analyser où vont.
Alors justement, j'ai une question par rapport à ça, parce qu'on voit que ça coûte déjà très cher, donc c'est nous qui payons, chers amis. Et l'ensemble de vos dispositifs, si je ne m'abuse, sont également payants. Ça veut dire qu'est-ce qu'aujourd'hui, on est obligé d'aller soit dans les écoles privées, soit de mettre son enfant très tôt dans une école bilingue, de le faire suivre s'il a des difficultés, ou encore de l'orienter, ça coûte cher au final.
C'est la deuxième remarque que je voulais faire. On n'est pas cher, on est coûteux. Vous disiez qu'à peu près c'est 9 000 euros pour un élève dans le public. En moyenne dans le privé, on doit être à 7 000. Donc s'il y avait la moitié des étudiants ou des lycéens ou des collégiens ou des élèves qui étaient dans le privé, on économiserait 2 000 euros par tête multiplié par 8 millions d'élèves pour la moitié. Faites le calcul, ça fait quelques milliards. Donc vous pouvez dire, pour le maire, qu'il y a effectivement une source d'économie. C'est un investissement qui est, bien sûr, il faut que quelqu'un le paye, et c'est le gros problème d'améliorer l'enseignement, c'est notamment l'accessibilité, l'accès aux études privées. Des pays aussi réactionnaires que la Suède ont décidé, il y a une dizaine d'années, de faire une réforme et en faisant un forfait scolaire, et une association, une mairie, une entreprise pouvait créer une école, et s'il y avait, ils ont calculé qu'il y avait X milliers de couronnes par étudiant, et bien c'était une école qui avait 150 étudiants, elle avait 150 fois le X milliers de couronnes suédoises. Oui. Donc ce sont des réformes qui sont possibles même au XXIe siècle, de réformes que des pays modernes ont faites, hein, il y en a d'autres qui l'ont fait, on peut réfléchir à des facilitations. Ça a été fait dans l'apprentissage, l'apprentissage a été réservé au secteur public, maintenant ce qui a fait son succès indéniablement, c'est l'engagement du secteur privé dans l'apprentissage. On peut réfléchir à le faire aussi pour le secondaire, pour le primaire.
Exactement.
Pour le supérieur.
Pourquoi
c'est,
pas
c'est tout à fait. C'est quelque chose qui est physiquement fait, et c'est très encadré.
Le ministère du Patrick, travail. Attendez, on va faire réagir Stéphane Vincent pour que chacun ait son temps de parole. Stéphane, vous voulez réagir justement peut-être pas. On n'en est pas à la privatisation de l'enseignement, mais c'est vrai qu'on peut peut-être avoir des sources d'amélioration.
Oui, et notamment, il y a une source d'amélioration qui me semble intéressante, qui est celle de la remise en place et de l'exigence sur le cadre. Aujourd'hui, finalement, le fait d'avoir oublié un peu le cadre dans l'enseignement fait que finalement, on a des sources de coûts qui sont extrêmement fortes, ou en tout cas des sources de perte d'argent qui sont extrêmement fortes. Alors, je pense que, un, les enseignants méritent ce cadre, je pense que les jeunes méritent ce cadre, et je pense qu'on a une société qui mérite ce cadre, parce que derrière, en entreprise, il y aura du cadre. Et ouais, ça, de toute manière, que vous le vouliez ou pas, il y en aura.
Qu'est-ce que vous appelez le cadre ? C'est l'autorité ?
Le cadre, c'est un principe qui détermine des limites. Et ces limites sont connues de toutes et de tous, et elles permettent surtout d'être libre dans le cadre. Et donc, par rapport à ces éléments-là, il me semble que le fait de respecter les horaires, respecter les enseignants, respecter des règles, sont des éléments qui sont essentiels, qui permettent aujourd'hui d'avoir des jeunes qui connaissent le monde de demain, parce que ce monde-là est encadré, et surtout qui leur donne la possibilité d'être libres. Et cette notion du cadre nous permettra derrière de garder de l'exigence pour ces jeunes. Aujourd'hui, qu'un jeune décide d'aller faire une formation en boucherie, une formation en informatique ou une formation, je sais pas moi, sur une école de management, peu importe. il faudra rester exigeant. Donc, aidons chaque jeune à trouver sa voie, mais surtout, aidons-le à comprendre ce qu'est le cadre et surtout à ce que l'environnement de l'enseignement garde ce cadre.
Réaction autour de la table. Tiens, on parlait tout à l'heure de l'uniforme. Est-ce que ça fait partie du cadre? Est-ce qu'il doit être réintroduit, Lynne Visseveille?
Dans toutes nos écoles, les élèves portent l'uniforme. Moi, je suis
mais
tout
ça,
à fait pour.
Mais ça, c'est très anglo-saxon, non? Je crois qu'en Angleterre, on voit des petits écoliers tout petits déjà qui ont leur uniforme.
Oui.
Jusqu'à, on parlait de Poudlard. Bon, c'est un peu l'image d'Épinal, Harry Potter. Mais c'est vrai que c'est même assez élégant et valorisant.
Tout à fait. Et ça permet de mettre tout le monde sur un pied, d'une certaine façon, d'égalité. Donc, je pense que c'est effectivement une bonne idée de remettre l'uniforme dans les écoles.
En Martinique aussi, il existe l'uniforme depuis toujours. Ça n'a jamais troublé personne. Donc, c'est pas fatalement une mauvaise idée. Et puis, ça évite donc le snobisme et la différenciation excessive des vêtements de marque, etc. C'est vrai que c'est un cadre commun. Mais ce qui fait l'une des différences avec les écoles privées par rapport aux écoles publiques, c'est que l'école privée, elle sait exclure.
Est-ce que l'école publique peut exclure?
Bien sûr, et évidemment. On ne pourrait pas fonctionner si on ne pouvait pas exclure.
Oui, dans le privé.
Dans le privé,
mais
bien sûr.
Mais peut-être le drame du public, c'est de pouvoir faire ça.
Il peut s'il le veut, mais il n'y a pas de volonté. Parce que où est la poussière? Où est le tapis? On met la poussière sous le tapis. Et on ne veut pas qu'il y ait de vagues. C'est le pas de vaguisme dans beaucoup d'établissements, pas dans tous, mais dans beaucoup d'établissements, on essaie de cacher et on ne fait pas remonter à l'administration centrale tous les incidents qui peuvent se produire. On essaie de minorer les choses.
Pour quelle raison?
Parce qu'on ne veut pas d'ennui, parce qu'on ne veut pas qu'il y ait la mauvaise réputation, parce qu'on ne veut pas que le bouche-oreille soit compliqué, ce qui est idiot d'ailleurs, parce que maintenant il y a à peu près 60 millions de témoins et de contrôleurs sur Internet. Tous les Français, 90% des Français ont un téléphone portable, donc 80% sont des smartphones, donc ils ont Internet dans leur poche. Donc les réseaux sociaux, les sites de comparaison existent. Donc quand il y a des choses qui fonctionne mal dans un établissement, ça se sait, c'est pas la peine de le cacher. Ouais. Il faut le dire pour le traiter. Dans les établissements privés, c'est traité de manière très rapide et très immédiate, souvent.
Et c'est peut-être pour ça qu'on dirige d'ailleurs vers le privé.
Et très efficace, il faut savoir exclure. Alors, on n'est pas là pour exclure. Dans ma vie, j'ai dû exclure peut-être 5 ou 6 élèves. Bon, c'est pas. Je ne me sers pas de cette arme. Oui, mais j'ai une longue vie. Hein. Oh. J'ai une longue expérience. Ça fait 40 ans de métier. Mais c'est pas beaucoup. Mais les élèves se le disent. Il y a le bouche-oreille, bouche d'élève, oreille d'élève. On se dit, ben oui, le directeur, il est sévère, il sait exclure. Bon, et donc ça permet, puisque la menace n'est pas virtuelle, elle est réelle, mais parce que un cadre a été défini, précisé. Et comme le disait tout à fait pertinemment Stéphane Vincent, effectivement, il faut fixer un cadre, et c'est dans le cadre qu'on est libre.
La condition de liberté.
On est libre dans un cadre. La liberté absolue, c'est la jungle, et la jungle, on voit que c'est les lions qui mangent des gazelles.
Maxime Ayage, réaction justement sur ce cadre, cette restauration de l'autorité, ça, c'est ce qui manque aujourd'hui. Vous voyez des élèves qui viennent vous voir et qui voilà, font, je vais dire n'importe quoi, peut-être pas, mais ils vont pas rester de toute façon.
Vous savez, on part sur un sujet un peu plus vague. Oui, c'est compliqué. On voit bien quand on regarde nos classements PISA et qu'on baisse. Oui, il y a un problème d'enseignement. Oui, il y a un problème effectivement probablement d'autorité. Pour ma part, en tant que dirigeant d'un groupe, je comprends pas comment on fait pour gérer autant de millions de personnes de manière centralisée. Mais voilà, je comprends pas. Impossible. Je comprends pas comment ça se fait. Moi, j'entends le cas de manière décentralisée. J'imagine que l'État devrait donner un cahier des charges pour l'éducation, dans la santé, et pas forcément être opérateur. Je pense qu'on aurait beaucoup à gagner à différencier la fonction de cahier des charges, la fonction de cadre et la fonction d'opérateur. Si j'étais l'État, je m'assurerais que l'opérateur fait son travail et puis je le sanctionne. Mais c'est un sujet d'une autre nature, d'une autre difficulté. Plus généralement sur les motivations des gens qui viennent nous voir et sur le rôle des parents, c'est des produits de la enfin, c'est comme la santé, l'éducation, ce sont des services qui sont absolument essentiels. Je ne crois pas qu'il faille tout attendre de l'État. Si on attend tout de l'État, eh ben on attend trop parce que les besoins sont de plus en plus importants. Je veux réussir à l'école, je veux aller dans la bonne université, je veux aller dans la bonne classe, etc. Et ça coûte de plus en plus cher. Donc il est pour moi assez normal qu'en tant que parent, je puisse participer économiquement. Encore faut-il que ce soit pas des montants qui soient considérables. J'ai pas parlé d'Academia, mais effectivement, un budget, c'est quoi un budget de parent?
Si, on voudrait savoir justement les budgets pour les parents.
Mais c'est 500 euros par an.
Combien ?
Après les aides fiscales qui sont maintenant instantanées, c'est 500 euros par an. Bon, c'est pas énorme.
C'est vraiment une cinquantaine d'euros par mois.
Oui, c'est très accessible pour un résultat.
Pour 3 points de moyenne, c'est pas mal. Ouais.
Pardon ?
Pour 3 points de moyenne, c'est 4.
Ouais, n'oubliez, le dernier point, c'est 25%. C'est pas rien. Non, pour 4 points, c'est pas grand-chose, mais je trouve ça normal que les gens payent. Je trouve ça normal qu'ils le fassent. Et d'ailleurs, ils sont contents. Mais d'ailleurs, ça nous donne aussi des devoirs. Ça donne des devoirs, puisque les gens payent, mes gens sont exigeants, ils attendent. Ce qui est intéressant, c'est quand je regarde les études que nous faisons sur Academia, qu'est-ce que nous disent nos clients? Qu'est-ce que nous disent nos parents d'élèves, nos élèves? Je suis content, mais ils nous disent, oui, mais c'est normal, j'ai payé. C'est intéressant, c'est normal, j'ai payé, je suis content.
C'est un rapport qualité-prix.
Donc, c'est pas un rapport qualité-prix, c'est vous avez fait votre travail pour lequel je vous ai payé. C'est un peu brutal, mais au final... C'est intéressant puisqu'effectivement, ça nous pousse, ça pousse nos éducateurs, ça pousse nos professeurs, ça pousse nos équipes, finalement, à faire ce pour quoi les gens sont venus. Il y a plus intéressant que de prendre des cours de maths. On peut partir en vacances, on peut s'acheter des vêtements. C'est l'alternative en réalité.
Chez Superfutur, même question, Stéphane Vincent. Voilà, puisqu'on est dans les budgets, ça va coûter combien justement pour bien s'orienter, faire ce travail justement?
Alors sur un accompagnement qui va comprendre donc un accompagnement sur mesure avec un coach et puis la recherche de stage et la validation de stage ensuite avec toute la partie administrative, on est sur une base entre 1320 et 1650 euros pour une expérience qui en général dure à peu près une année.
Pour un an aussi, ok.
Si vous arrivez à valider des premiers éléments, je peux vous garantir que derrière, l'investissement, il est très très rentable. Un, parce que ça vous évite de louper une première année, souvent d'environnement supérieur, où là, on est sur d'autres chiffres que ces 1000 euros. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a le fait que dans la famille, l'environnement soit apaisé. Pour les parents qui vivent quand même la seconde, première, terminale, c'est vraiment une source de stress pour le jeune qui sait pas trop. Et puis les parents qui derrière se posent vraiment la question de savoir ce qu'ils vont faire. C'est la fameuse discussion du dimanche soir à 18h30 en disant « Bon alors, est-ce que tu as réfléchi à ton métier ?» Et là, en général, ça se passe pas bien. Donc je vois Patrick qui sourit. C'est une réalité. Je pense qu'effectivement, ça a pas de prix.
Si je veux que mon enfant devienne complètement bilingue, l'InvisoVale, combien coûte la scolarité dans vos établissements?
Alors ça va dépendre des établissements, mais on va dire aux alentours entre 10 000 et 14 000 euros à l'année.
À l'année.
Voilà, c'est un investissement clairement, mais c'est un investissement que de plus en plus de parents décident de faire parce qu'ils sont conscients qu'ils donnent une chance extraordinaire à leurs enfants.
D'accord. Et est-ce qu'il y a une moyenne, Patrick Roux, dans l'enseignement privé?
Il n'y a pas de moyenne, je vous donne une fourchette. Il y a à peu près une école associative dans un petit territoire rural, ça va coûter peut-être 3500 euros, et une grande école de management, ça va coûter jusqu'à 12 ou 15 000 euros. Donc s'il y a pas, on peut difficilement faire une moyenne avec des choux et des carottes. C'est plutôt une fourchette. Je voudrais, en tant que prof, vous m'excuserez de reprendre une manie de professeur qui est de corriger et de noter, mais pas de noter, mais de corriger, de rectifier. Vous avez utilisé tout à l'heure le terme de privatisation.
Oui.
Il ne s'agit pas de privatiser l'enseignement, il s'agit de l'ouvrir, comme c'était fait pour l'apprentissage. On n'a pas privatisé. Les lycées publics, les universités sont restées en place, elles ont profité de la réforme aussi, puisque la réforme a promu fortement l'apprentissage, et tout le secteur public en a profité aussi. Le secteur privé, qui n'en faisait pas du tout, tout simplement parce qu'on lui interdisait de le faire, en a profité plus, bien entendu. Mais on entend souvent l'expression « c'est une aubaine pour les établissements d'enseignement privé ». Non, c'est pas une aubaine pour les établissements, c'est une aubaine surtout pour les 600 000 jeunes qui jusque-là ne pouvaient pas accéder au cursus qu'ils voulaient et qui ont pu, du jour au lendemain, y accéder. Et le mouvement est en marche. Et donc c'est important, cette distinction. On cherche pas à exclure et à dominer. Ouais. Privatiser, c'est un mauvais terme.
D'accord.
Mais c'est de l'ouvrir. Je rappelle que dans la profession de l'enseignement privé, il y a à peu près 40% des structures qui sont des associations. Donc c'est pas uniquement des commerçants. On n'a rien contre les commerçants, bien sûr, je fais partie des commerçants, je fais partie aussi associatif, puisque j'ai plusieurs établissements, dont certains sont associatifs. C'est l'histoire de la profession. Mais c'est une ouverture de l'ensemble du secteur. Et ça, ce serait une manière de dégager des marges d'inventivité et d'adaptabilité.
Voilà, donc l'ouverture, ben merci d'avoir saisi votre stylo rouge pour rectifier, à l'instar de ce magnifique nœud papillon, je précise pour nos auditeurs, qu'arbore Patrick. En tout cas, un grand merci. On a parlé de beaucoup de choses, bien évidemment. On retient effectivement la notion d'un certain cadre, peut-être de l'idée de l'uniforme hein, que certains appellent de leur vœu, que ça coûte aussi peut-être et que, à part notre contribution de citoyens et de ces chiffres déjà élevés qui payent et les opérationnels et la superstructure, eh bien, il faut des fois, pour avoir un enseignement de qualité peut-être, ou une orientation de qualité, mettre la main à la poche. En tout cas, c'est très intéressant. Un grand merci à tous nos invités.
N'oublions pas le plaisir d'apprendre.
Et le plaisir d'apprendre, oui. Ça c'est vrai, revenir avec le plaisir d'apprendre. Un grand merci à Patrick Roux, le président de la Fédération Nationale de l'Enseignement Privé. Lynn Vissoveil, un grand merci, présidente
merci
France de Globe Educate. Maxime Ayache, le patron de Domia Group, Acadomia et Shiva également. Et puis Stéphane Vincent, un grand merci également à distance, le président fondateur de Super Futur. Dans un instant, on continue
merci
avec la formation des jeunes. La clé pour sortir de l'impasse industrielle, c'est avec Loïc Leflotte-Prigent. Et puis on enchaîne sur la deuxième table ronde, sur la formation enjeu central. À tout de suite.
Colloque éthique en partenariat avec Web Radio Édition.